Mali.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Partout au Mali, vous écoutez Studio Tamani. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici la matinale. Le Conseil malien des transporteurs routiers annonce une nouvelle hausse des prix de transport à partir de lundi prochain. Une situation provoquée par la hausse du prix du carburant. Déjà, les passagers se plaignent des tarifs en vigueur. L'association des éditeurs de presse privée, ACEP, ne partage pas le choix du nouveau représentant de la presse au sein du Conseil national de transition. L'ACEP s'insurge contre la méthode et dénonce un choix partisan selon elle. Dans cette édition, il sera aussi question de maraboutage au Mali comme dans beaucoup de pays africains. C'est un secteur sollicité par plusieurs personnes. Le marabout est considéré comme un réalisateur du bonheur pour certains. Tout de suite, le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bienvenue. La mise en onde de Nuhum Djiré, les tarifs actuels des transports de passagers subiront une hausse comprise entre 500 francs et 5000 francs CFA à partir de lundi 1er août 2022 sur toute l'étendue du territoire national. La décision a été annoncée ce jeudi 28 juillet 2022 à Bamako à la suite d'une rencontre du Conseil malien des transporteurs routiers. Ces augmentations sont provoquées par la cherté du carburant mais aussi le mauvais état de la route selon les responsables du CMTR. Dans la capitale et à l'intérieur du pays, des passagers se plaignent déjà des tarifs en vigueur. Mamadou Samasekou.
À Balkas, dans le centre du pays, certains passagers dénoncent ces augmentations des tarifs de transport. Selon un passager qui a témoigné au micro de notre correspondant dans la localité, l'augmentation des tarifs n'est pas du tout proportionnelle à celle du prix du carburant.
Ici, Bamako, 12 000, c'est 20 euros. Et mon petit 5 000 aussi, c'est vraiment trop. S'il y a une hausse de carburant, on augmente, je ne sais pas, 45 francs sur le prix du litre. Ici, on augmente 1 000 francs sur les frais de transport. C'est vraiment trop.
Ce sentiment est aussi partagé par d'autres voyageurs rencontrés dans une gare routière à Bamako.
De Bamako à Kenyaba. Avant, c'était 6 000 francs. Mais depuis la crise d'essence, ça a été 8 000 francs. Bon, jusqu'à maintenant, c'est toujours 8 000 francs. C'est cher.
Vraiment, les tarifs sont chers maintenant. Les temps sont durs. Mais s'ils nous réduisent un peu les prix, ça nous fera plaisir. D'ici ça, c'était à 6 000 francs. Mais il y a eu augmentation de 1 000 francs. Vraiment, ce n'est pas facile.
Pourtant, les transporteurs indiquent que cette augmentation s'est imposée à eux du fait de la crise actuelle que traverse le monde. Souriba Sissé, président du syndicat des transporteurs par autobus STA.
Mondialement, tout le monde est au courant de l'augmentation du carburant. Pratiquement aussi à la dégradation des routes. Nous transportons des passagers, il y a l'insécurité, il y a tout. On doit prendre l'autorité pour escorter les bus. Il y a beaucoup de facteurs. Sincèrement, on ne voulait pas augmenter, mais on a été obligé d'augmenter.
Dès qu'il y aura baisse des prix du carburant, dans la mesure du possible, les tarifs aussi seront revus à la baisse, rassure Souriba Sissé.
La distance qui ne vaut pas 200 et quelques kilomètres et on a ajouté 500 francs. 400 à 500 kilomètres, on a ajouté 1000 francs. Les distances qui vaut 580 à 600, 2000 francs, sont à 2500. Les distances qui dépassent 1800, 1500 kilomètres, 5000. Si ça baisse, si les coûts aussi baissent, on va baisser.
Cette augmentation des tarifs de transport vient à un moment où plusieurs produits de première nécessité sont aussi en hausse.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook et notre compte Twitter. Les résultats du diplôme d'études fondamentales DF seront proclamés ce vendredi 29 juillet 2022 à partir de 16h. L'information est donnée par le ministère de l'Éducation nationale dans un communiqué publié mercredi dernier hier au Conseil des ministres. Le ministre a indiqué que le taux national d'admission est de 47,86%. La justice malienne a émis cette semaine des mandats d'arrêt internationaux contre 4 personnalités, parmi eux 3 anciens ministres du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. L'information est confirmée par la Cour suprême, selon des responsables de l'institution judiciaire. Ces poursuites entrent dans le cadre de l'affaire des détournements dans l'achat d'équipements militaires. Plus de détails avec Khalifa Goïta.
Les 4 personnalités visées par ces mandats d'arrêt sont Dr Boubou Cissé, ancien premier ministre et ministre des Finances, Tchema Iber Koulibaly, ancien ministre de la Défense et des anciens combattants. Mamadou Igor Diarra, également ex-ministre de l'Économie et des Finances. La quatrième personnalité visée par la justice est l'ancien directeur de la Banque malienne de solidarité, BMS Babali Ba. Ces personnalités sont hors du pays pour la plupart. Selon des responsables de la Cour suprême, elles sont poursuivies dans le cadre de l'affaire des détournements dans l'achat des équipements militaires. Un dossier dans lequel plusieurs officiers supérieurs et des anciens ministres ont déjà été placés sous mandat de dépôt. Parmi eux, Mme Boiré Félicie Sogo, ex-ministre de l'Économie et des Finances, Général Bemba Moussa Keïta, ex-chef d'état-major et l'ancien patron de la direction du matériel, des hydrocarbures et des transports de l'armée.
Explication signée Khalifa Goïta, direction Bafoulabé dans la région du Kaï. Une rencontre de restitution de l'initiative de sensibilisation sur les dangers liés à la prolifération des armes légères a eu lieu mercredi dernier dans la ville. Une cinquantaine de personnes, dont des administrateurs, des représentants de la société civile et des éléments des forces armées et de sécurité, ont pris part à cette rencontre. Le point avec notre correspondant Bafoulabé.
Pour les organisateurs, cette rencontre vise à sensibiliser la population sur les dangers liés à la détention des armes laser et de petits calibres. Capitaine Bakary Bessidibé, président du bureau régional du secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes laser.
L'objectif est de sensibiliser la population par rapport au respect de la loi en ce qui concerne la détention des armes, à savoir quel type d'armes la population est habilitée à avoir et quel type d'armes sont uniquement réservées à l'armée.
Toutefois, le capitaine Bakary Bessidibé a précisé aux participants qu'aucune détention d'armes n'est autorisée aux civils, sauf celle du fusil de charge calibre 12.
Hormis ça, tout le reste n'est vraiment pas permis à la population civile. C'est les armes réservées uniquement et exclusivement aux forces de défense et de sécurité.
Cette rencontre a également été saluée par le préfet du cercle. Amadou Soumaré a indiqué qu'elle permettra à la population de s'impliquer davantage dans la lutte contre la prolifération des armes laser.
La rencontre a permis aux acteurs qui ont été invités de savoir ce qu'il faut faire désormais pour récupérer ces armes-là et les donner à qui de droit.
À noter que cette session financée par l'ambassade du Canada a été organisée par le bureau régional du secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes laser. De Bafoulabé, Moussa Bessidibé pour Studio Tamani.
8h07 à Bafoulabé, désignation des nouveaux membres du Conseil national de transition suite à son élargissement. Les choix des représentants de la presse ne fait pas l'unanimité. Au sein des fêtières de la presse, l'association des éditeurs de presse privée ACEP dénonce un choix unilatéral et non inclusif. Mais pour la maison de la presse, les deux personnes proposées ont été désignées suite à un processus transparent et concerté. Moussa Malé Sissoko.
Le président de la maison de la presse affirme avoir mené de concertations avec les acteurs de la presse sur les noms des candidats devant siéger au CNT. Bandjougou Danté estime que des critères ont été définis au cours des consultations.
Aujourd'hui, nous avons 31 organisations qui sont répertoriées. Nous avons entrepris des démarches auprès de l'ensemble des organisations concernées, y compris ceux qui ont produit le communiqué. Nos deux représentants qui sont là-bas sont déjà de la presse écrite. Et nous avons estimé que pour renforcer leur présence là-bas, soit on cherche quelqu'un de l'audiovisuel, soit on va chercher quelqu'un de la presse en ligne. Et nous avons reçu une soixantaine de candidatures. Il est demandé à ce qu'on propose deux noms. C'est ce que nous avons fait.
L'association des éditeurs de presse privée, de son côté, désapprouve cette démarche, selon elle, non concertée de la maison de la presse. Son président Ousmane Dao déplore que l'ACEP, qui compte 235 journaux, ne soit pas associée au processus.
Les choix ont été faits sans nous, ça ne nous engage pas. Nous n'avons pas été consultés. Alors, quand on a vu le décret, ce qui est attendu de la maison de la presse, conformément à ses attributions, c'était de convoquer une réunion. Une réunion avec les fêtières pour en discuter. À ce que je sache, il n'y a pas eu une réunion de ce genre-là. Nous regrettons que la maison de la presse ait de cette manière que nous n'approuvons pas décidé d'envoyer des noms, encore une fois, à notre nom.
Le décret portant la recomposition du Conseil national de transition CNT a été rendu public jeudi dernier par le président de transition. Il fixe la clé de répartition et de désignation des membres additifs.
Moussa Malé Sissoko, autre sujet, les aides ménagères appelées aussi bon à tout faire sont des jeunes filles de la campagne employées en ville comme filles de ménage. En cette période hivernale, elles sont presque introuvables dans la capitale et pour cause, beaucoup d'entre elles ont commencé à regagner leur village depuis les premières pluies. Si ce retour au village était un moment de joie pour nombre de ces filles, c'est le contraire pour des patronnes de ces employés domestiques. Lala Aïcha Wallet pour le reportage.
Le retour de ces filles au village est un moment de travail et de surcharge pour leurs anciennes patronnes des villes. Ce retour cause des désagréments dans de nombreuses familles où la bonne est la principale gérante des travaux domestiques. Kadja Kone, une femme au foyer, nous raconte son calvaire.
Je n'ai pas de bonne. C'est mes enfants qui m'aident avec le manque de bonne. Ce n'est pas facile à gérer et c'est fatigant. Tu es obligé de tout faire. Mais avec sa présence, même à mon absence, elle s'occupe de tout.
Les femmes sont unanimes sur l'importance des servantes dans les foyers, comme le témoigne Mme Balo qui passe ses journées au service.
Bon, moi personnellement, mon aide ménagère n'est pas rentrée, mais le matin avant de sortir, moi je m'occupe des enfants de venir au boulot. Et à la descente, quand je rentre à la maison, je prépare, puis je fais le reste des tâches que la bonne ne peut pas faire. Elle est très utile à la maison parce que c'est elle qui servait à mon absence.
Ces femmes joignent leur voix à celle des associations défenseurs des droits des aides ménagères. Selon elles, les employeurs doivent éveiller au respect des droits des bonnes comme les recommande le Code du travail.
À présent, le dossier du jour en Afrique, tout comme au Mali, le marabout est perçu comme celui qui est capable de réaliser notre bonheur. Si beaucoup de personnes y croient et font recours à leur service, d'autres par contre préfèrent se confier à Dieu. Des sociologues préviennent que le recours à ces marabouts a des conséquences sur la vie en société. Le reportage de Amsé Toutouré.
À Bamako, les avis sont partagés concernant le maraboutage. Si pour les uns, c'est une forme d'escroquerie, d'autres en revanche préfèrent tout simplement se confier à Dieu.
Moi, en tout cas, moi quand même j'y crois parce que c'est un phénomène qui existe dans notre société.
Je ne le fréquente pas, vraiment. Parce que ça va permettre de mettre les gens dans le fainéantisme.
Ça existe bien, mais je ne pense pas que ce sont les marabouts qui peuvent résoudre les problèmes. C'est Dieu qui fait tout.
Bon, sincèrement, moi je ne crois pas. Moi je ne crois pas du tout. Parce que Dieu nous a dit qu'il n'y a pas de barrière entre nous.
Ouais, moi je connais des gens qui ont fait et moi-même j'ai eu à faire des recours pour ça et ça a donné des résultats positifs.
Selon Fodie Tandigoura, sociologue, le maraboutage est avant tout une pratique mystico-religieuse. Il va même loin en le qualifiant de profession.
Ça, c'est des pratiques magico-religieuses. Il faut d'abord comprendre que c'est un marché, c'est comme une profession, mais comme ce n'est pas reconnu dans l'espace officiel, les gens se cachent pour aller voir les marabouts. Par exemple, ils ne se cachent pas pour aller voir un médecin, mais ils se cachent pour aller voir un marabout.
Le recours à leur service peut avoir des conséquences sur la société, prévient le sociologue.
Donc ça peut créer une dépendance psychologique terrible. Le marabout peut te dépouiller, etc. Donc ça tue l'effort personnel. Le marabout, c'est d'abord un opérateur économique qui cherche son argent. Ça peut vous mettre en porte-à-faux avec le voisinage, avec la famille, souvent même avec le mari et avec toutes les personnes qui apparaissent dans la description du marabout.
En attendant, beaucoup croient en ces rituels et vont même jusqu'à faire des sacrifices humains.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Le reste de l'actualité en quelques brèves à Kalana, cercle de Yamfolila, les corps de deux garçons âgés de 5 et 3 ans ont été retrouvés dans une fosse d'une maison inhabitée au quartier d'Abara, d'Abarambougou. C'était ce mercredi 27 juillet 2022 vers 19h. Les deux enfants avaient disparu dans la journée. La gendarmerie et le médecin légiste de Kalana ont été mobilisés. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Les deux enfants ont été inhumés ce jeudi 28 juillet 2022 dans la ville. Après 5 ans de prison et libéré seulement mercredi dernier, un jeune d'une trentaine d'années a été encore mis à la disposition de la brigade de Massina pour vol de moto. Le récidiviste a été poursuivi et arrêté mardi 26 juillet vers le village de Nara, commune de Kokri, centre, avec la moto d'un agent d'une ONG à Massina. En ce moment, dans le cercle, le vol et le braquage de braquage sont devenus récurrents. 8h passées de 14 minutes se referme cette édition qui vous a été présentée par Sekou Gadjigo, mise en onde Nohum Diré. Juliette Koulibaly sera là tout de suite pour la version Bamanankan. Mais en attendant, le magazine Tous les enfants. Le magazine Tous les enfants du Mali s'intéresse aujourd'hui au cas de noyade pendant la saison pluvieuse. Un enfant âgé de 11 ans environ a été victime il y a quelques jours de noyade à Bandiagara. L'incident a eu lieu au Marigo de Yanné. La protection civile invite les parents à protéger les enfants en cette période hivernale où les risques de noyade sont élevés. Le magazine Tous les enfants, c'est une présentation de Juliette Koulibaly.
Il y a le Yamé qui fait le contour de la ville. C'est un marigot qui est là. Au retour des champs, les enfants ils se lavent là-dedans. C'est rocaillé, il y a beaucoup de roches sous les eaux. Maintenant, l'enfant, il est venu quand il voit les collègues se laver. Lui aussi, il s'est déshabillé et plongé dans l'eau. Malheureusement, sa tête est coincée avec une roche qui est au fond du marigot. C'est ce qui l'a un peu écrasé sa tête et puis il n'est plus sorti.
C'est ce qui arrive souvent pendant la saison pluvieuse, comme le témoigne ici le lieutenant-colonel Django Keita, directeur régional de la protection civile de Bandiagara, une localité où des cas de noyade sont fréquents. Ainsi, pour prévenir les risques de noyade pendant la saison de pluie, les parents d'enfants des localités de Bandiagara, Bafoulabé, San et Tombouctou appellent à la vigilance.
Nous ne sommes pas à la maison. Les enfants sont laissés à eux-mêmes, alors qu'on doit tout savoir sur leur aller.
Il y a un constat amer qui est là aujourd'hui. La plupart des femmes ne peuvent pas se rendre au fleuve sans les enfants. Il n'est pas souhaitable qu'un enfant puisse se noyer dans des situations incroyables. Donc je demande à tout un chacun de veiller sur les enfants, que les enfants ne puissent pas se rendre dans les fleuves ni au niveau des cours d'eau.
Les risques sont énormes. Ils peuvent se noyer, contracter des maladies comme le paludisme et la bilharziose.
Comme ça trouverait que les écoles sont fermées, moi je pense aux parents vraiment de faire énorme attention, de garder les enfants auprès d'eux.
De son côté, la direction régionale de la protection civile de Bandiagara demande aux habitants de la localité d'alerter rapidement les services de protection en cas de noyade. Une alerte rapide peut sauver des vies, martèle lieutenant-colonel Django Keita, directeur régional de la protection civile de Bandiagara.
On demande aux parents de veiller sur les enfants. S'il y a des cas de besoin d'urgence, il faut appeler les sapeurs-pompiers de la ville jour et nuit. Quand vous appelez les secours, nous serons à votre côté pour vous aider.
La protection des enfants de tout risque est un droit fondamental et inaliénable, expliquent des observateurs. Ainsi prend fin ce magazine Tous les enfants du Mali. À la semaine prochaine pour un autre numéro.
C'était le magazine Tous les enfants du Mali.